franceinter.fr.
Bonjour Pierre Cahuc.
Bonjour.
Bonjour André Zilberberg.
Bonjour.
Le négationnisme économique, le titre de votre livre chez Flammarion, est violent. Il a été jugé choquant, mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel est ce que vous dites de l'économie devenue selon vous une science, comme la biologie ou la physique, et de ceux qui en contestent les lois, ces économistes hétérodoxes que vous qualifiez de faux savants ou de charlatans. L'un d'entre eux sera face à vous dans un quart d'heure. C'est l'un des animateurs du collectif des économistes athées, Henri Sterdignac, et je vous remercie d'avoir accepté de débattre avec ceux que vous dénoncez. Je précise pour nos auditeurs que vous n'êtes pas n'importe qui, directeur de recherche au CNRS, professeur à Polytechnique, vous n'êtes donc pas des pamphlétaires comme ça tombés de nulle part. Et je voudrais qu'on parle d'abord du fond. Quelles sont donc les questions, selon vous, tranchées par la science économique? Le partage du travail, Pierre Cahuc?
Alors, il faut comprendre que ce que fait l'économie, l'objet de notre ouvrage, c'est d'expliquer ce que font les chercheurs en économie aujourd'hui. Et ils adoptent une méthode qui est de plus en plus expérimentale, dans la mesure où il y a une abondance de données depuis une trentaine d'années qui permet d'aller vers les faits, vers le réel. Et ça, c'est une véritable révolution que nous racontons dans notre ouvrage, qui a changé la physionomie de ce que font les économistes depuis une trentaine d'années.
C'est-à-dire qu'on observe concrètement ce qui se passe dans des situations réelles, dans des pays avec des politiques économiques qui ont été suivies et leurs effets produit sur ces politiques. Hein. Voilà. Ce sont des sciences expérimentales qui valident ces hypothèses par le réel.
Voilà. Typiquement, on procède comme en médecine ou comme en biologie. Lorsqu'on veut étudier quel est l'effet, par exemple, du salaire minimum sur l'emploi, on regarde quelle est l'évolution de populations qui sont touchées par une augmentation du salaire minimum et d'autres non. Et on regarde l'évolution de l'emploi entre ces deux populations. Par exemple, aux États-Unis, dans certains États, le salaire minimum a augmenté dans les années 90. Dans des États voisins, il n'a pas augmenté. En suivant l'évolution de l'emploi le long des frontières de chaque côté des États, on est capable de voir quel est l'effet du salaire minimum. Et on a des surprises quelquefois. Dans ce cas, le salaire minimum a permis d'accroître l'emploi dans les États où il avait effectivement augmenté. Donc c'est cette méthode qui est utilisée qui a changé profondément la physionomie de l'économie. Alors, il y a certains sujets sur lesquels il y a beaucoup de travaux empiriques, sur d'autres non, mais il y a évidemment toujours de l'incertitude, mais les sujets sont plus ou moins tranchés.
Il y a peu de consensus quand même, André Zilberberg.
Oui, je crois qu'il faut dire qu'il y a même sur une majorité de sujets pas de consensus. Et c'est très clair dans notre livre, on donne énormément d'exemples. D'ailleurs, si vous allez à un séminaire de recherche en économie, où vous lisez les articles, les deux mots que vous verrez le plus souvent, c'est « ça dépend ». Ça dépend du contexte, ça dépend des conditions. On donne des exemples. Pierre Cahuc a parlé du salaire minimum. Ouais. On donne aussi l'exemple des politiques de mixité sociale. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, etc., etc.
C'est l'une des objections qu'on vous oppose. C'est-à-dire que les expériences dans tel pays ne sont pas transposables.
Oui et non. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, si vous avez suffisamment d'expériences analogues dans plusieurs pays, et que ces expériences convergent vers des résultats qui sont les mêmes, on parle tout simplement d'un consensus. Et ce consensus pourra être mis en cause plus tard. Et si vous le permettez, je vais vous donner un exemple très important, dont nos détracteurs, on peut les appeler comme ça, ne parlent jamais, et qui est fondamental aujourd'hui. C'est le problème de l'immigration.
L'immigration, pour
vous, il y a des millions de migrants.
Détruit pas l'emploi.
Absolument. Il y a des millions de migrants aux portes de l'Europe. Les économistes ont fait énormément d'études sur les mouvements migratoires, peut-être un des sujets les plus étudiés. Mmh. Et le consensus de la communauté internationale est simple, ça ne détruit pas d'emploi, ça ne crée pas de chômage. Ouais. Alors, maintenant, les politiques
sont des études parfois anciennes. Vous appuyez pas par forcément. Exemple sur l'arrivée des pieds noirs d'Algérie.
Les pieds noirs d'Algérie, l'exode des Cubains.
Aux États-Unis, oui.
Les mouvements migratoires qui ont suivi les guerres des Balkans, c'est pas si ancien que ça. La réunification allemande, ça fait quand même beaucoup d'études et tout ça est convergent.
Alors, en revanche, il y a beaucoup moins d'études sur la question que je vous suggérais tout à l'heure, le partage du travail, la réduction du temps de travail, qui est l'un des éléments du partage du travail, qui, selon vous, ne crée pas d'emploi.
Alors, je dirais pas qu'il y a moins d'études. C'est tout simplement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont mis en œuvre des politiques de réduction du travail.
Moins d'études, oui.
Et sur les quelques exemples qu'on a, c'est-à-dire l'Allemagne, le Québec, la France, toutes les études qu'on connaît nous disent réduire le temps de travail en soi, sans abaisser le coût du travail, sans abaissement des charges sociales, ça crée pas d'emploi. Alors, tout simplement, je pense que l'honnêteté, l'objectivité scientifique consiste à dire, on peut pas prôner une politique qui consiste à dire abaissons le travail, tout va bien se passer et on va créer des emplois.
Sauf qu'il y a en France, il y a eu en France un certain nombre d'études qui ont montré que les 35 heures avaient créé de l'emploi. Alors
vous pensez
que c'est la baisse des charges qui est liée aux 35
voilà,
heures.
Voilà, cette étude qui dont on parle toujours, elle mesure pas l'effet de la baisse de la durée du travail, elle retient l'effet des 35 heures ou des doigts au bris qui mélangeaient deux choses, la baisse de la durée légale du travail et la baisse des charges. Or toutes les études qui isolent l'effet de la baisse du travail sans baisse de charges ne trouvent jamais d'effet. Donc voilà, il y a un consensus. Évidemment, ce n'est pas gravé dans le marbre. Si des études montrent qu'il y a des effets contraires, on pourra dire qu'il y a des effets contraires. Mais pour l'instant, aucune étude ne le montre. Donc ce que nous disons, c'est que lorsque un magazine, par exemple, je reprends Alternative Économique, publie un dossier sur la réduction du temps de travail sans citer une seule de ces études publiées dans les études universitaires, dans les revues universitaires académiques, on dit qu'il y a là une forme de négationnisme scientifique. On nie l'existence d'une communauté scientifique qui travaille. Il y a des dizaines de milliers de chercheurs qui travaillent sur ces sujets sans orientation idéologique. Et donc c'est ça que nous dénonçons d'une certaine manière. Un discours qui consiste à dire les chercheurs qui ne trouvent pas des résultats qui nous satisfassent, ces chercheurs sont mus par une idéologie, ils ont une pensée unique. Ce discours nous semble erroné, c'est ce que nous appelons du négationnisme, le même discours des climato-sceptiques sur les chercheurs sur le climat. Et donc c'est ceci que nous dénonçons et nous voulons mettre en avant dans notre ouvrage ce que font aujourd'hui les économistes. Ils font un travail fantastique que nous trouvons passionnant et c'est ce que nous essayons de décrire.
Est-ce que c'est une science dure, est-ce que c'est une science précise, la science économique? L'autre objection de vos détracteurs, c'est que vous considérez que l'homme est un être rationnel qui agit, se comporte toujours de la même façon, et que vous vous êtes inspiré finalement par des modèles mathématiques.
Oui, alors le débat science exacte, science dure, science molle est un peu faux. Toutes les sciences sont à la fois exactes et molles. C'est-à-dire exactes au sens où les économistes tous. On essaye de faire des raisonnements cohérents. Donc ça, c'est de la science exacte. Mais d'un autre côté, depuis une trentaine d'années, on s'est donné des protocoles pour essayer d'évaluer les conséquences des politiques économiques. Et en ce sens-là, nous ressemblons aujourd'hui énormément à ce que font les médecins. Quand ils essayent de tester un médicament, ils ont des groupes tests à qui on inocule le médicament, des groupes de contrôle qui ne l'ont pas. Nous, on essaye de faire pareil. Parfois, on a des résultats. Parfois, on ne l'a pas. Et je crois qu'effectivement, ce qu'a dit Pierre est très important. Notre livre, bon, c'est pas un pamphlet, c'est pas un brouillon.
Oui, si.
Non. Le mot pamphlet ne nous plaît pas trop, mais bon, laissons, c'est pas grave. Sur le fond...
Pardon, mais enfin, la façon dont vous évoquez vos contradicteurs ou les économistes hétérodoxes, c'est le ton d'un pamphlet,
vous avez raison,
évidemment.
Vous avez raison sur le ton, mais ce qu'on a voulu faire dans 90% du livre, c'est de rendre hommage à tous ces chercheurs qu'on ne connaît pas, qui essayent patiemment de scruter les données, d'observer, d'apporter une petite pierre à l'édifice, et qui arrivent péniblement. Ils sont ni de droite, ni de gauche, ni libéraux, ni antilibéraux.
Un dernier point, question tranchée selon vous, la baisse des charges, vous expliquez que ça ne sert à rien, sauf celle sur les bas salaires, autour du SMIC. Et donc c'était une absurdité de la part de Louis Gallois d'avoir abouti à des baisses de charges jusqu'à 3,5 fois le SMIC. Pierre Cahuc.
C'était pas une absurdité, c'était intéressant pour l'industrie qui payait des hauts salaires. Effectivement, sur ça, il y a vraiment un consensus en économie pour dire que les baisses de charges ont un effet sur les bas salaires, parce qu'en France, il y a un salaire minimum et il y a beaucoup de chômage. Et les personnes qui sont au chômage, 80% des personnes qui sont au chômage n'ont pas plus que le bac. Donc si on veut augmenter l'emploi, il faut baisser le coût du travail au niveau des bas salaires. Si on baisse les charges sur les salaires plus élevés, comme il y a peu de chômage, les personnes qui peuvent percevoir des salaires élevés sont peu au chômage. Ça a un effet d'augmentation des salaires essentiellement.
Pierre Cahuc, André Zilberberg, le négationnisme économique et comment s'en débarrasser. Vous serez donc confronté dans quelques minutes à l'un de ceux que vous ciblez dans votre livre, l'économiste atterré Henri Sterdyniak. À tout à l'heure. Et puis les auditeurs de France Inter, évidemment, sont les bienvenus sur cette antenne. Dans un instant, la revue de presse.